Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Ici Radio Grand Ciel Châteaudun. Nous allons poursuivre notre émission Histoire et Mémoire en parcourant d'autres rues de notre chère ville grâce à Jean-Claude Galerne qui est passionné de toutes ces recherches. Au micro, Henri Méchel. Nous écoutons Jean-Claude.
Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'une rue qui est petite dans les nouveaux quartiers, mais le nom est absolument géant, ce mot. Je parlais de Louis Pasteur. La rue Louis Pasteur. Louis est un chimiste, un biologiste, un scientifique, mais ce n'est pas un médecin. Né à Dôle, le 27 décembre 1822, d'un père, ex-sergent des armées napoléoniennes, l'école le conduit au collège d'Arbois, où ses parents habitent alors. Il est doué, surtout en peinture. C'est un excellent portraitiste. Il fréquente le lycée royal de Besançon, mais brillant, il part pour Paris pour préparer le bac. Mais à Paris, il déprime. Et il est obligé de revenir à Besançon. Mais Besançon, c'est une petite ville, trop étroite pour l'immense Louis Pasteur. Donc, il repart à Paris pour passer le bac littéraire qu'il obtient en 1840. Puis en 1842, il obtient le baccalauréat de sciences et mathématiques. Après un échec, en 1941. Retour à Paris, au lycée Saint-Louis, avec des cours de chimie à la Sorbonne. En 1843, il est admis comme normalien. En 1847, il est docteur en sciences. Et à 27 ans, en 1849, il épouse la fille du recteur de la faculté de Strasbourg. Bien sûr, dès 1854, il va enseigner à Strasbourg, puis à Lille. Il devient doyen de la faculté de Lille. C'est là qu'il va vraiment faire application de son enseignement. Il travaille avec les brasseurs de bière de Lille sur la conservation de la bière et le transport face à la meilleure qualité de la bière allemande. La méthode de chauffage de la bière et son refroidissement vont révolutionner le marché industriel que le monde entier va connaître aujourd'hui. On appelle cela de la bière pasteurisée. Aseptisée, diront les amateurs de sensations plus fortes. C'est la bataille de la fermentation que reprendront Fleming ou Salk. Rôle exact des agents vivants dans la fermentation et non vivants comme les enzymes. Salk dira « On ne brevette pas le soleil ». En 1857, il est nommé administrateur chargé des études à l'École nationale supérieure, puis en 1862, élu à l'Académie des sciences. En 1865, nommé par Haussmann dans une commission pour la recherche sur le microbe du choléra. Il sera obligé de démissionner de l'École nationale supérieure. Il est trop marqué Napoléon III. Ses collègues sont républicains. Il reçoit alors une chaire en Sorbonne. L'empereur lui demande alors de prendre en charge la maladie du ver à soie qui détruit la sériciculture. S'il obtient des résultats tangibles par des procédés isolatoires, il n'arrive pas à éradiquer la maladie. C'est lors de ses études à Alès qu'il est victime d'une maladie cérébrale et reste hémiplégique. Sa main gauche est paralysée. En 1874, ses travaux sur la fermentation sont couronnés par un prix de la Royal Society, le mot « pasteurisation » est en route. On va au fil des ans faire des progrès considérables dans la conservation en pasteurisant, chauffe entre 62 et 88 degrés suivant les produits. Pour le lait, c'est 72 degrés pendant 15 secondes, 20 minutes pour la bière à 60 degrés. Destruction de certains enzymes. Les Américains aujourd'hui ne jurent que par le pasteurisé. On notera que Pasteur a essayé en Bourgogne de pasteuriser le vin sans grand succès. En 1876, il va s'aventurer alors sur un chemin particulier en voulant se faire élire sénateur. C'est l'échec qui le marque pour toujours, car il a compris que ce monde n'était pas le sien. Et Pasteur, en 1877, continuant à chercher, va découvrir le vibrion septique, soit la septicémie. En 1880, le staphylocoque. Dès 1881, son équipe met au point le vaccin sur le charbon du mouton qui décime les troupeaux, notamment en Beauce. C'est son premier grand succès. On dit alors que les paysans beaucerons en auraient fait les yeux fermés à un député. Mais il n'a pas voulu retourner dans l'arène. La même année, le vaccin antirabique lui vaut la consécration. Et en 1888, c'est le vaccin contre le choléra des poules. Pasteur préconise la septie, propreté parfaite, et note que les germes en suspension dans l'air sont moins nombreux que dans l'eau. Il a repris beaucoup de travaux laissés en jachère pour faire progresser la science. C'est peut-être le père de la vaccination. Le vaccin de la grippe date de 1944. Mais depuis quand la vaccination est-elle vulgarisée ? Pasteur mourra le 28 septembre 1895. Le 5 octobre auront lieu des obsèques nationales à Paris. Alors, on peut se poser la question, Pasteur avait-il la foi ? Ou a-t-il été marqué par le décès de sa fille de 9 ans, Jeanne, en 1859 ? Il n'était plus pratiquant. Il avait été bloqué. On avancerait cette phase de Louis Pasteur. Quand on a bien étudié, on revient à la foi des paysans bretons. Qu'on prenne qui pourra. Mais Louis Pasteur nous a laissé, évidemment, un institut colossal. Cet institut va marquer toutes les décennies et qui vont venir jusqu'à nos jours. Et bien sûr, pour parler des travaux de cet institut, je passerai la parole au médecin Henri.
Donc, Louis Pasteur est célèbre en particulier pour avoir mis au point le vaccin contre la rage. Et il a sauvé de ce fait un jeune Alsacien qui lui en a été reconnaissant toute sa vie, puisque ce jeune Alsacien, Joseph Meissner, a ensuite gardé la porte de l'Institut, était portier à l'Institut Pasteur à Paris. Et donc Pasteur a su former une équipe qui lui a succédé. Et ainsi, donc au siècle dernier, alors on a pu, cette équipe a mis en place d'autres vaccins. Citons le vaccin contre la fièvre jaune en 1932, un des vaccins contre la poliomyélite en 1954, et le vaccin contre l'hépatite B avec l'équipe de Tours d'un grand biologiste du CHU de Tours qui malheureusement est décédé accidentellement il y a un certain nombre d'années. Et donc cet Institut Pasteur rayonne non seulement en France mais à travers le monde puisque on compte 31 Instituts Pasteur. Et Vous en avez, nous en avons en Amérique, en Afrique, à Dakar en particulier, en Asie, en particulier en Indochine. Et donc, ce travail continue et actuellement, les chercheurs sont en train d'étudier le coronavirus qui fait des ravages en Chine et pour essayer d'avoir vaccins et traitements. Et la sagesse aussi de ces dernières décennies, c'est d'être associé à l'Institut Mérieux de Lyon, qui était également spécialisé en particulier dans les vaccins. Et nous allons maintenant faire une petite pause musicale. Nous reprenons avec Jean-Claude qui va nous amener dans une autre rue de Châteaudun.
Tout à fait. Nous allons parler aujourd'hui d'un musicien, c'est-à-dire Pierre Guédron. Pierre Guédron est né en 1565 sous Charles IX. Ce Charles IX, un des enfants de Catherine de Médicis, qui est passé plusieurs fois à Châteaudun. Donc il est né en 1565, Pierre Guédron, vraisemblablement à Châteaudun, on dit en Pays du Noy. Il est présenté, dès son enfance, dans la région, comme un enfant avec une voix exceptionnelle. Il a des goûts certains pour la musique, le luth, viol, clavecin. Simple chantre de la chapelle du cardinal de Guise. Voyez le chemin parcouru pour arriver jusqu'au cardinal de Guise. Il chanta au pays d'Évreux en 1585. Il a 20 ans. Il est en pleine mue de sa voix. Après l'assassinat de Louis II de Lorraine, archevêque à 19 ans, Louis II de Lorraine, puis cardinal, le 24 décembre 1588, à Blois, il passe à la chapelle du roi Henri IV en 1590, à la première place des chanteurs. En 1599, il est maître des enfants de la chambre du roi. Il devient compositeur de la chambre du roi en 1601 et de la reine-mère, encore une Médicis. En 1610, il va chercher un enfant de chœur à Saint-Gatien, à Tours, demandé par le roi. Maître et compositeur de la musique de chambre du roi, puis intendant et surintendant, il est le musicien de la fin de ce siècle. Il devient sieur d'Arville. Arville, c'est un petit hameau, pas très loin de Châteaudun. Et de Saint-Aubin, ceci en 1627. Saint-Aubin, à Civry, c'est la Grand Cour, la ferme de la Grand Cour. Il restera protégé par Marie de Médicis sous la Régence et le règne de Louis XIII. Il écrira 6 ouvrages d'airs de cour polymélodiques, combinaison de plusieurs mélodies, soit environ 200 ballets et œuvres. On peut citer le ballet de naissance de Monseigneur le duc de Vendôme. Là encore, le duc de Vendôme, César, est un voisin. Nous sommes à 40 km de Châteaudun. Épître à la reine Marie de Médicis. Il écrira pour elle aussi sous la forme de la monodie italienne, pour lui faire plaisir. Hélas, il va mourir au printemps 1620, alors qu'il n'est âgé que de 55 ans. Il s'était marié à Gilette Duguet, fille de Daniel Duguet et de Jeanne Touchard, des noms bien dunois. Ceci vers 1590 en l'église Saint-Valérien. Il eut 13 enfants, dont 8 moururent jeunes. On peut citer certains d'entre eux. Jacques, né en 1593 à Châteaudun, qui suivra les traces de son père en musique, chantre du roi, puis administrateur de la maison Dieu de Vendôme, gendarme dans la compagnie du roi, qui va décéder à Saint-Hilaire-sur-Yerres en 1657. Il avait épousé Madeleine Caillé, fille du seigneur du Vivier de Saint-Hilaire-sur-Yerres, prévôt des maréchaux de France de Châteaudun, dunois de cœur. Il avait acheté le fief de Beaumarchais à Cloyes, c'est-à-dire le fief de Beaumarchais, c'est une petite ferme qui se situe vers la Piotière et la Hennebinerie à Cloyes. Charles, son fils, épousera René de Courtavel, fille du seigneur de la Galoire, en 1652, veuve de Charles Caillé. Sa fille épousera Brossard, un maître verrier. René de Courtavel, fille du seigneur de la Galoire, était une famille très importante qui avait habité cette ex, on peut dire, abbaye, qui aujourd'hui est habitée par un personnage célèbre de la région. Il eut également comme enfant Marc-Antoine, curé d'Aunay-sous-Auneau et de Leuville-la-Chenard, et seigneur de Civry. Civry, 10 km de Châteaudun. Jeanne, en 1595, baptisée à l'église de la Madeleine, épouse du musicien Boessé, maître de la musique de la reine. Marguerite, en 1598, baptisée à Saint-Pierre, cette église qui a disparu maintenant, qui était dans le haut des 200 marches. Elle avait épousé Claude Malon, sieur de Montrieux. Dans les enfants décédés en bas âge, on trouvera Catherine, qui a été aussi baptisée à Saint-Pierre, puis Marie, Daniel, Michel, Madeleine, qui sera, elle, baptisée à Paris. Léonore, baptisée à Châteaudun. Pierre, baptisé en 1606 à Saint-Germain-l'Auxerrois, habite le manoir de Charmerolles, à Châtillon, et puis à la base de Jouet, où il épouse Louise Béquignon. Cette famille Béquignon, encore aujourd'hui, des descendants à Saint-Jean-Froidmantel, à côté de Cloyes. Pierre est mort à Frileuse, où il y avait un prieuré, prieuré de Tiron. Il est mort à Frileuse, de Douy, le 9 décembre 1669. Il ne reste plus de vestiges aujourd'hui du prieuré de Frileuse. Louise épousera à Civry le sieur Guignard de Villenpuy. Cette famille possède aujourd'hui le château de Bouville, à Cloyes. qui a été achetée vers 1965 au marquis d'Argens. Et puis aussi Catherine, baptisée le 24 mai 1611 à Saint-Valérien, qui sera religieuse à Saint-Avit, où nous avons eu dernièrement une superbe exposition de la ville de Saint-Avit. Et elle sera prieure de Sainte-Blaise-les-Brissac en Anjou. Donc on voit que Pierre Guédron, certes musicien, a aussi marqué le pays du Noir, tant par son talent que par ses descendants. Merci, Monsieur Guédron.
Et nous continuons avec Jean-Claude de déambuler dans les rues de Châteaudun.
Alors nous allons parler de la rue Charles Péguy. La rue Charles Péguy à Châteaudun, c'est la rue qui se situe tout près du cimetière du Chandet, tout près des vestiges de cette église qui a été incendiée vers la fin du XIXe siècle et que d'ailleurs Zola, lors de son passage à Châteaudun, avait remarqué. C'était la foudre qui a fait brûler cette église. Et aujourd'hui, quand on parle du Chandet, on ne parle pas souvent de l'église, on parle du cimetière. Et juste à côté, maintenant la rue, s'appelle la rue Charles Péguy. Alors, pourquoi une rue Charles Péguy à Châteaudun? On met quelquefois des noms de rue à des personnes qui ne sont jamais venues à Châteaudun ou qui ne sont pas de la région. Ce n'est pas le cas avec Charles Péguy, puisque Charles Péguy est un régional. Il est venu à Châteaudun. Donc Charles naît le 7 janvier 1873 dans une famille modeste d'Orléans. Son père est menuisier et sa mère est rempailleuse de chaises. Son père meurt alors qu'il a 10 mois. Il a laissé sa santé sur les barricades de la commune en 1871. Oui, son père était ce qu'on pourrait dire, non pas un communiste, mais un communard. Ces gens qui défendaient la commune, qui se sont battus pour défendre cette commune de Paris. Donc, il perd son papa, il est élevé par sa mère et sa grand-mère. Et il trouve sur sa route, à l'école primaire, qui est une annexe de l'école normale à Orléans, un maître instituteur. Vous savez, à l'époque, ce que nous appelions les hussards noirs de la République, qui va le guider vers le collège. Théophile Naudy, un Orléanais dont une école porte encore le nom dans le nord d'Orléans. C'est un bon élève. Il va aller au lycée Potier, rue Jeanne d'Arc. Ces bâtiments existent encore. Lorsqu'on regarde la cathédrale, c'est à gauche, quelques dizaines de mètres avant la cathédrale. Charles Péguy est au lycée Potier. C'est un élève brillant. Mais son directeur note « On ne doit pas donner l'exemple de l'irréférence envers ses maîtres. » Son papa était quand même sur les barricades. Il est bachelier. Mais fils du peuple, il va s'y reprendre à 3 fois pour franchir la porte de Normale Sup. Et il dira ceci. Que le fils d'un ouvrier mécanicien soit reçu à Saint-Cyr, c'était tout à fait bien. Que le fils d'un instituteur fût reçu à Polytechnique, c'était mieux encore. Mais que le fils d'une rempailleuse de 16 soit reçu à Normale Sup, c'était la gloire. Ces mots de Charles Péguy sont extraordinaires. D'après certains, plus de 100 ans après la mort de Péguy, l'ascenseur social serait en panne. Alors, messieurs qui actionnaient les manettes de l'ascenseur social, pensez à Péguy. C'est à lui que l'on doit ce titre que je citais tout à l'heure, des hussards noirs de la République, nos instituteurs qui nous ont guidés dès nos plus jeunes âges. Il est journaliste, poète, écrivain, mais il reste attaché à sa région. Et rappelons-nous l'origine de ces vers. Nous sommes nés au bord de votre plate Beauce et nous avons connu dès nos plus jeunes ans le portail de la ferme et les durs paysans, et l'enclos dans le bourg et la bêche et la fosse. Oui, nous vivons au bord de cette plate Beauce, dunois, orléanais, des villes et des campagnes, ployant sous le fardeau de tous nos humbles tâches, nos yeux tournés vers Chartres et sa belle cathédrale. Le lieutenant Charles Péguy est mort au champ d'honneur, dans la Marne, le 5 septembre 1914, à l'âge de 41 ans. Il faut noter que lors de cette guerre terrible, plusieurs centaines de Dunois sont morts dans les différents combats. Et, hélas, le monument est d'une grandeur telle qu'il nous rappelle que des gens comme Charles Péguy et tant d'autres ont donné leur vie pour leur patrie. Merci.
Merci Jean-Claude de nous avoir à nouveau accompagnés pour ce 3e épisode dans les rues de Châteaudun. Et donc, on se dira à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir, chers auditeurs et chères auditrices.